Ellos no dudan en los gatillos calar y son mal número de jóvenes que mata el capital. Mejores condiciones para el pobre, no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en democracia, de una dictadura disfrazada y maquillada. Ayotzinapa vuelve a ser la pesadilla, no cabe duda. Están matando a aquel que lucha. No nos engañaremos con sus cínicos montajes. Sabemos que esas balas obedecen a quien pague. No nos comemos su discurso de indignados. A ustedes no les duelen los muertos de acá abajo, porque esos son los muertos de un pueblo en guerra. Y en esta guerra la venganza nunca espera. Ya nos cansamos de poner esa mejilla. Será del pobre su justicia.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Creció tu rebeldía.
El mismo proceso como hace muchos años. Lucrar con la sangre de los pueblos olvidados. Cuestiona tu falta de sensibilidad. Falsa su justicia, faltas a su moral. No existe el derecho, falsa la libertad. Reina la hipocresía, mentiras y maldad. Adoradores del dinero, mezquinos por entero. Asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad. Y queda asentado para su posteridad que la semilla ha germinado y esta lucha no ha dudado ni siquiera dar un paso atrás. Porque estos pueblos convencidos de su lucha por una vida justa no se doblegarán. Somos guerreros incansables con grandes ideales. Por más que intenten no nos callarán.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía.
Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla.
Es una rebeldía. Es una rebeldía. Rebeldía. Creció la rebeldía, rebeldía. Creció tu rebeldía, 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 rebeldía.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Les Amis d'Orwell, retour en direct sur Radio Libertaire. Ce soir, on va vous parler de ce qui se passe dans le sud-est du Mexique. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à autre chose que ce qui nous préoccupe d'habitude sur notre continent. On part au Mexique, mais vous allez voir, vous allez l'entendre, on ne va pas être dépaysé. Au programme, violence d'État, colonisation des territoires et impérialisme économique. Autour de la table, trois invités, deux collectifs. D'abord, Salomé et Sceau. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, salut.
Et à côté de moi aussi, Clo. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, deux collectifs. Le premier collectif, Ayotzinapa Paris. Et ensuite, Clo, tu représentes le collectif Stop EDF Mexique. Ayotzinapa, c'est le nom d'une école du professorat, c'est-à-dire une école normale rurale, c'est ça, tu
me souviens? Ouais, c'est ça.
Ça se trouve dans l'état du Guerrero, et il y a 8 ans, fin septembre 2014, 43 élèves ont été assassinés. En fait, ils sont disparus. Leurs corps n'ont pas été retrouvés. On reviendra dessus sur cette triste histoire tout à l'heure. Et depuis donc ces événements, une grande vague de solidarité pour que la vérité justement éclate autour de ce crime s'est répandue dans toute l'Europe, et notamment à Paris, où votre collectif donc fait le lien entre ce massacre d'État et les collectifs de familles de victimes de la police en France. Il y avait donc une réunion publique fin septembre au nord de Paris pour justement commémorer ces 8 années de lutte. Et vous avez eu la très bonne idée d'inviter d'autres personnes originaires du Mexique qui relayent ici des luttes écologiques et sociales, comme ce qui se passe au sud-est du pays, sur l'isthme de Tehuantepec, une bande de terre convoitée par des industriels de l'énergie, des ressources naturelles, le tout alimenté par l'impérialisme économique des États-Unis. Nous verrons aussi que les compagnies européennes jouent un très grand rôle là-dedans. Nous diffuserons d'ailleurs tout à l'heure l'intervention d'un membre de ces différents collectifs de lutte sur place au Mexique. Il s'appelle Mario, il était donc présent lors de cette réunion fin septembre. Il est venu faire une petite tournée en Europe, et tout ça pour annoncer d'ailleurs des événements sur place qui se dérouleront au printemps 2023. Maintenant, on va commencer par dérouler un petit peu l'émission autour de vos collectifs. Collectif Ayotzinapa Paris. Alors évidemment, ça fait référence à ce qui s'est passé il y a 8 ans. Voilà. Donc je ne sais pas qui veut commencer pour raconter l'histoire du collectif, évidemment faire le lien avec ce qui s'est passé réellement à cette époque-là au Mexique. So.
Ok, ouais, je veux bien me lancer. Donc Ayotzinapa, ce qu'on appelle aujourd'hui le cas Ayotzinapa, s'est déroulé le 26 et 27 septembre 2014, donc pendant la nuit. En fait, c'était un groupe d'étudiants qui avait réquisitionné des bus, comme tous les ans qui font ça, pour se rendre à la ville de Mexico et participer à la manifestation pour le 2 octobre, parce que pour commémorer la massacre d'étudiants qui a eu lieu au Mexique, justement le 2 octobre 1968. Et en fait, ils ont été attaqués par la police et par des groupes de narcotrafiquants également. Mmh. Et voilà, quand on a appris ça, comme personnellement moi je l'ai appris ici à Paris, c'était un cas très emblématique, disons, parce que ces écoles normales rurales, enfin, ce sont des écoles pour des enfants de paysans dans des zones très, ben, entre guillemets, reculées du Mexique, où en fait, si tu as envie de faire des études supérieures au-delà du lycée, tu peux être que devenir professeur.
Et, c'est des internats même, c'est ça?
C'est des internats, et si tu veux faire une autre profession, ben, du coup, il faut que tu déménages, que tu ailles à la ville. Mais en fait, ce sont des familles autochtones, issues de peuples autochtones. Leurs parents, parfois, ils ne parlent pas espagnol. Mmh. Et surtout, ben, comme la plupart des paysans au Mexique, ils sont très pauvres. Donc voilà, c'est une option pour eux de se former. Et aussi, il faut savoir que ce sont des écoles assez politisées, militantes. Par exemple, Lucio Cabañas, qui est un grand guerrillero des années 70, est issu de cette même école normale rurale d'Ayotzinapa. Donc en fait, il y avait quelque chose de très emblématique du fait que l'État, à ce moment-là, on pensait que c'était uniquement au niveau municipal, donc la police municipale, le président municipal qui avait ordonné à la police qui est lié au narco, d'attaquer les étudiants. Donc il y avait quelque chose de très symbolique, et ça a réveillé un mouvement social au Mexique et à l'international. Il y a eu des échos à New York, à Berlin, à Madrid, enfin dans plein de villes d'Europe, dont ici à Paris. Je me rappelle que moi j'étais étudiante à l'époque et que ça m'avait révoltée, touchée, et j'ai décidé de chercher un peu les moyens, c'est qui les gens qui se réunissaient pour manifester. Et c'est comme ça petit à petit qu'on s'est connus. Donc évidemment, à travers les réseaux sociaux, il y avait des appels pour se rassembler ou pour faire des manifestations. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le collectif. Après, je pense que chacun, chacune, par exemple, on a organisé des actions. Ça, c'était mon cas. J'avais organisé une action et du coup, je leur avais demandé de l'aide. Après, on s'est rencontrés. Et donc voilà, petit à petit, on s'est retrouvés en groupe à mener des actions, notamment pour récolter des fonds et pouvoir envoyer, parce que voilà, les parents des 43 étudiants qui ont été disparus, ben ils peuvent pas, ils travaillent pas quand ils militent, et donc voilà, il fallait envoyer des sous. Donc on se mobilisait, on faisait des soirées, surtout ben faire connaître ce cas et cette lutte ici en France. C'était important pour nous, notamment parce que en 2015 il y a eu Mitterrand qui a invité Enrique.
Hollande.
Ah, je dis toujours Mitterrand. Excusez-moi.
Hollande,
toujours.
Hollande. Non, on ne va pas te le reprocher.
Il y a Hollande. Après, c'est qu'en fait, ils ont.
Mais ouais, soit
dans ma tête, ils ont la même tête.
Mais c'est les mêmes politiciens, en vrai. Hein, ouais, Hollande. C'était 20 ans après Mitterrand, mais c'était les mêmes, quoi.
Hollande, il a invité Enrique Peña Nieto,
qui était à l'époque président du Mexique, hein,
exactement,
c'est ça,
et qui était président lors de cette massacre. Ouais. Et il invitait, enfin, d'abord ils ont signé plein d'accords économiques et tout ça, et après il invitait lui et l'armée à défiler, enfin comme invité d'honneur, pas défiler pour le 14 juillet, ce qui nous a bien foutu la rage, parce
que l'année suivante, c'est-à-dire 2015.
Oui,
c'est
du
ça
coup exactement, ouais. 2015, parce que voilà, faut savoir que ce 26 et 27 septembre, ben, du coup, il y a 43 étudiants qui disparaissent, donc leurs camarades le commencent à chercher. Heureusement, c'est une école qui est organisée, donc et que du coup, c'est mobilisé, et on a commencé à entendre parler de ce cas, et on a commencé à chercher les étudiants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le gouvernement, il a répondu avec la vérité historique. Donc avec un mensonge qu'aujourd'hui, ben, l'État a assumé que c'était un mensonge. Et des années après, mais en disant que voilà, que leur version, c'était que le président municipal, oui, avait ordonné d'attaquer les étudiants en supposant qu'ils allaient perturber un meeting politique de lui et de sa femme, qui sont complètement colludés avec le narco. Mm-hmm. C'est pour ça d'ailleurs que nous on parle de narco-État au Mexique.
C'est ça.
Et que du coup, il y aurait notamment le cartel de Guerreros Unidos avec la police qui aurait attaqué les étudiants, qui aurait du coup kidnappé, séquestré les 43 étudiants, les aurait brûlés dans une décharge et puis mis dans des sacs en plastique, des sacs poubelles, et les aurait jetés dans une rivière. Sauf que ben, les perpétrateurs du crime, enfin ceux qui ont avoué ce crime, avaient des traces de torture. Et aussi, ben, en fait, il y a un groupe interdisciplinaire d'experts internationaux, le GIEI, qui était appelé par les parents, parce qu'ils ne croyaient pas du tout à cette entre guillemets vérité historique que le procureur de l'époque, Murillo Karam, avait présenté. Et en fait, eux, ils ont dit, ben, déjà, ce n'est pas possible de brûler 43 corps dans une décharge, du coup, à ciel ouvert, sans un endroit vraiment, enfin, fermé, et surtout il a plu cette nuit-là. Donc voilà, il y avait plein de choses qui en fait marchaient pas avec cette enquête.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout de 8 ans, il y a toujours pas de clarification, il y a toujours pas de vérité.
Bah, il y en a quelques-unes que je pense qu'après Salomé, elle va en parler de ça, mais il y a eu quelques élucidations, mais c'est vrai qu'au début, on ne savait pas où ils étaient. On savait juste que c'était impossible qu'on les avait tués tel que c'était présenté par le gouvernement. Et c'est aussi le fait qu'en les cherchant, les gens ont commencé à les chercher dans les montagnes, dans les rues. Ils ont commencé à les chercher, et en trouvant ce qui pourrait être une fosse commune, ils ont commencé à à déterrer des corps. Et ce que l'État dit, c'est comme, ah, ce sont pas eux. Et c'est pas les étudiants. Mais en fait, c'est qui? Et en fait, c'est là où aussi, nous, en tant que collectif, on s'est rendu compte que, enfin, peut-être je parle personnellement, peut-être d'autres en savaient, mais en tout cas aussi je pense que le Mexique a pris une conscience que c'est pas que les étudiants, en fait, ce phénomène de disparition forcée, c'est partout dans le pays et c'est
atroce.
C'est ça,
je pense, qui est symptomatique de cette... Enfin, cette histoire est devenue symbolique aussi pour ça, parce que ça a réveillé justement...
Oui, ça a réveillé quelque chose.
Toutes ces vagues de disparitions liées au trafic,
oui, et notamment, ça libérait la parole. Parce qu'en fait, les gens qui se font enlever un frère, une sœur, des parents, des enfants, en fait, ils se les font enlever soit par la police, soit par les cartels, ou soit, en fait, on s'en fout, c'est les deux. Du coup, ils ont peur. Ils ont peur des représailles. Ils ne peuvent pas vraiment parler.
Ok.
Et donc...
Donc le collectif, il est né assez vite à Paris, comme dans pas mal de petites grandes villes européennes, j'imagine, c'est ça?
Oui, en général, en fait, la disparition de cet audience, c'est... ça a eu lieu... la nuit du 26 au 27 septembre 2014. Mais ce n'était pas connu au Mexique, en fait, tout de suite, même au Mexique. Et il y a eu quelques jours pour que cette affaire soit connue du grand public. Et c'était surtout le mois d'octobre que tout le monde a commencé à se mobiliser au Mexique, notamment les étudiants déjà d'Ayotzinapa. Et ensuite, il y a des collectifs, des manifestations au niveau national. Et assez vite, de la solidarité internationale, à travers des manifestations, des actions diverses devant les consulats, les ambassades. Et dans le cas de Paris, du collectif Paris Ayotzinapa, il y avait surtout ces actions spontanées, un peu partout, des personnes qui appelaient via Facebook surtout. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait Mexicanos en Paris pour Ayotzinapa. Et le collectif en soi, il s'est officiellement un peu créé en janvier 2015 quand on a fait la première soirée de soutien pour lever des fonds, pour envoyer aux familles et pour qu'ils continuent à se mobiliser 4 mois après.
Et après, donc, il y a eu la visite de Nieto,
une
série d'actions, etc.
Même avant la visite de Peña Nieto en France, en mai 2015, il y a eu déjà une délégation d'Ayotzinapa qui est venue à Paris. Et avec un des parents de cet étudiant qui était porté disparu et un des étudiants qui a survécu à la disparition, parce qu'en fait on parle de 43 étudiants disparus, mais ce soir-là, le 26 septembre 2014, il y a eu 6 personnes qui sont décédées ce soir-là, 3 étudiants d'Ayotzinapa et 3 personnes qui passaient par là, en fait, justement, qui ont été pris à tort pour des étudiants. Mais en fait, il y avait beaucoup plus de 43 étudiants qui s'étaient mobilisés pour réquisitionner les bus. Et dès que les gens qui avaient réquisitionné les bus ont envoyé des textos aux étudiants qui étaient dans l'école pour dire qu'ils s'étaient attaqués par la police, à ce moment-là, ils reconnaissaient que la police municipale. Et donc, du coup, il y a eu d'autres camarades d'Ayotzinapa qui sont venus. Et soutenir les camarades qui étaient arrêtés. Donc, il y avait environ une centaine d'étudiants qui étaient là, donc 43 disparus.
Ok. On a une petite urgence, mais justement, on va faire le lien entre les deux événements, parce que le soir de cette réunion publique, fin septembre, il y avait réellement un lien qui a été fait entre ce qui s'est passé à Ayotzinapa et ce qui se passe dans l'isthme de Tehuantepec. Clo, est-ce que tu peux justement présenter, toi, le collectif qui travaille depuis quelques années sur le colonialisme économique dans cette région du Mexique sud-est?
Oui, tout à fait. Donc, du coup, le collectif Stop EDF Mexique, c'est un collectif qui s'est créé en 2020. Et en fait, il s'est créé à partir, en fait, de plusieurs personnes, français, françaises, qui sont passées à un moment donné dans cette région qui s'appelle l'isthme de Tehuantepec, qui est située dans l'état de Oaxaca, au Mexique. Qui est situé dans l'état de Oaxaca au Mexique, c'est cette région qui s'appelle l'isthme de Tehuantepec, où en fait depuis plusieurs décennies un certain nombre de multinationales, dont françaises, dont EDF, viennent y installer des parcs industriels éoliens, parce que c'est une région qui est très venteuse. Et le problème, c'est que c'est un certain nombre de ces parcs qui sont imposés sur des terres qui sont des terres communales, donc à usage collectif de peuples autochtones, dont Zapotèques par exemple, qui sont originaires de cette région-là. Donc voilà, et donc on est un certain nombre d'entre nous qui sommes passés à un moment donné par cette région, avons rencontré des personnes là-bas, des personnes en lutte contre ces projets, et c'est à partir de là que ces personnes nous ont dit, bah voilà, vous êtes un certain nombre à être venus nous voir, est-ce que vous pouvez pas vous parler et puis voir ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, en France, puisque une de ces multinationales en question, c'est EDF. Donc comment voilà, arriver à faire en sorte que leur voix soit entendue jusqu'ici, et puis nous dénoncer voilà, ce que EDF a failli faire. Et donc c'est à partir de là qu'on a voilà, pu créer ce collectif Stop EDF Mexique, et avec donc, l'idée de pouvoir bah, amplifier la voix de ces luttes.
Ça fait combien de temps qu'ils se battent là-bas contre ces méga-projets d'éoliennes notamment? Une quinzaine d'années je crois, c'est ça?
Même sûrement un peu plus en réalité, je ne pourrais pas le redater, mais en tout cas, ça fait plusieurs décennies oui, que ces multinationales s'y installent, quoi. Ça ne date pas de...
Mais quand on dit que c'est une région venteuse, c'est-à-dire que c'est quoi, c'est la géographie du lieu? Rappelez un petit peu la région, c'est l'isthme, voilà, donc, qu'est-ce que c'est qu'un isthme en fait? C'est une région
donc,
très
en fait,
plate,
c'est la... Alors non, là en l'occurrence, c'est donc cette région qui est en fait la plus étroite, donc entre le, voilà, voilà, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et donc c'est en cela aussi qu'il y a beaucoup de vent dans cette région.
Et c'est, ouais, c'est des zones humides, c'est lagunaire, c'est comme des espaces à protéger, quoi. C'est pas non plus... et c'est en train d'être colonisé. Donc, et à quoi ça sert ces éoliennes en fait? On se demande pourquoi... Bon, évidemment, les énergies vertes, c'est partout, c'est un peu la folie. Mais ça alimente, c'est ça en fait, la question, c'est que ça alimente aussi des industries nouvelles qui ne sont pas encore présentes et qui vont encore détruire des espaces, j'imagine, encore plus. C'est un peu ça l'enjeu.
Au niveau
électrique. On va justement faire la première pause musicale parce qu'il y a eu un petit souci. On n'a pas pu finir la présentation avec le collectif Ayotzinapa. Enric, tu peux passer le deuxième morceau, s'il te plaît? Et puis on va expliquer plus tard comment on va faire l'émission. On a eu un petit contretemps. À tout de suite.
For those who protested, for those they arrested,
estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar.
Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep being blind.
Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar.
Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it in line.
Que su luz te cuide en donde estés, una veladora.
Rebonsoir, retour dans les amis d'Orwell sur le plateau en direct sur Radio Libertaire. Ce soir, donc, on a eu un petit contretemps, nos invités a dû quitter les studios. On va s'en sortir, on va sans doute faire une émission beaucoup plus courte. Nous sommes donc avec So et Clo. So, donc, tu fais partie du collectif Ayotzinapa Paris. Donc, on évoquait justement l'histoire de ce qui s'est passé il y a 8 ans. Dans cette école rurale du Mexique, est-ce qu'on peut, là depuis 8 ans, faire un point sur... Il y a un nouveau président qui est arrivé au Mexique il y a 3 ans. En arrivant, il a promis, entre guillemets, que l'enquête allait être relancée. Donc je crois qu'il y a eu un... il a donc nommé une commission, c'est ça ? Donc ils ont remis un rapport il n'y a pas longtemps, qui pour la première fois a révélé qu'ils reconnaissaient un crime d'État.
Oui, donc avec le nouveau président et AMLO.
AMLO, alors ça
oui,
c'est
Andrés Manuel López Obrador.
Obrador, donc, on va dire, ouais.
Lui, il a créé une commission de la verdad, une commission de la vérité.
D'accord.
En 2018, et du coup là en août 2022, ils ont sorti le rapport. À savoir que le GIEI, dont on parlait avant, la commission indépendante, avait déjà sorti 3 rapports où, en fait, ils pouvaient pas finaliser l'enquête parce que toute l'enquête menait vers les militaires, l'armée. Et c'est là où l'État et l'armée avaient fermé leurs portes. Ils avaient pas pu, parler avec des personnes qui auraient été, impliquées. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que pendant cette attaque, des 43 étudiants, il y avait c'était fait à côté du C4 et pas loin d'un bataillon de l'armée. Du coup, le C4, c'est une sorte de plateforme de communication. En fait, c'est là où les militaires peuvent écouter tout. Enfin, c'est-à-dire qu'ils étaient au courant de tous les fils de téléphone, tous les appels.
Donc c'est l'armée, le renseignement,
etc. Exactement.
C'est au-dessus de la police, quoi.
Oui, oui, oui. Bien au-dessus de la police, c'est l'armée. Y a eu ça. Donc, forcément, ils étaient au courant. Donc, ça, c'était quelque chose que Ojei, ça lui donnait le droit de frapper la porte. Mmh. Et aussi parce que dans la vérité historique de l'ancien procureur Murillo Karam, il y avait mention que de 4 bus, et ils n'en parlaient pas d'un cinquième, alors qu'il y avait eu un cinquième bus. Donc il était présumé qu'en fait, ce cinquième bus aurait de la drogue, de la marchandise, parce qu'il faut savoir aussi que Guerrero, c'est le deuxième producteur d'héroïne dans le monde, la région en question, le Guerrero. Et la plupart de cette héroïne part dans ce type de bus et va vers les États-Unis. Et voilà, et ces routes commerciales, tout le monde le sait, c'est parce qu'il y a des contrôles et tout, et c'est l'armée qui contrôle ça. Donc voilà, tout menait vers l'armée. Mais le GIEI a dû quitter le pays parce qu'il ne voulait pas, jamais, même pendant la guerre sale dans les années 70 où les disparitions forcées ont continué et que l'armée était clairement impliquée, il n'y avait jamais pu avoir un procès ou quoi que ce soit. Et du coup, ce rapport, même s'il est, il y a des... Je ne sais pas comment on dit ça, mais disons qu'il est censuré. Bon, il est public, mais il est public. Tu peux le consulter.
Caviardé, on appelle ça en français. Caviardé.
Caviardé, ouais, en noir comme ça. Tu peux pas lire ce qui s'est dit, notamment
parce
sur les conversations.
Parce qu'il y a des noms, des gens qui sont noms.
Je pense qu'il y a aussi des faits, parce que en fait, ce rapport évidemment remet en question toute la vérité historique, en fait, et remet en cause la responsabilité de l'État à tous les niveaux. Mm-hmm. Et la responsabilité de l'armée, notamment parce que on apprend que un des 43 étudiants, en fait, c'était un militaire infiltré.
D'accord.
Et que du coup, même ce militaire avait informé de ce que les étudiants étaient en train de faire, de réquisitionner des bus. Mm-hmm. Ils avaient reçu un message à lui mais ils ont rien fait d'ailleurs pour le protéger. En fait, en fait, dans ce rapport, quand tu le lis, ça s'arrête juste là où on pourrait décrire ce qui s'est passé avec les étudiants. Ça élucide pas vraiment ce qui s'est passé. Juste, ça laisse entendre qu'ils ont été effectivement tués. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? C'est qu'il y a eu 20 mandats d'arrêt. Donc, du coup, ce procureur Murillo Caram, il y a eu un mandat d'arrêt aussi.
Donc, Caram, lui, il était quoi à l'époque?
Procureur.
Procureur, d'accord. Du Mexique?
Oui.
D'accord, pas de la région, du Mexique?
Non, du Mexique.
Fédéral, okay.
Oui. Du coup, lui, il y a aussi Thomas Cerón. Je ne me rappelle pas quel était son poste, mais il était lié à cette affaire. Et lui, il s'est réfugié en Israël.
Okay.
Et il y a aussi 16 de ces 20 mandats, il y a 16 qui concernent les militaires, mais pour l'instant, il n'y a pas grande chose qui s'est faite. Notamment, il y a Cienfuegos, qui est le directeur de l'armée, et qu'on essayait de. Enfin, que même les États-Unis voulaient mener une enquête contre lui en 2020, et en fait, le président actuel l'a défendu. Et voilà, et lui, il n'est pas dans ses mandats d'arrêt.
Donc on peut dire que des têtes sont tombées, c'est ça? Symboliquement, même pas.
On peut dire que quelques-unes, ouais. Notamment Murillo Caram, mais pas tant que ça, en fait.
Ce qui fait craindre que justement le reste.
Ce qui fait craindre qu'en fait, il n'y a pas vraiment de justice.
C'est ça. Qu'il n'y en aura jamais, en fait.
Exactement. Et que. Ouais. Exactement.
Parce que pour déclencher une enquête judiciaire et une vérité et judiciaire.
Parce qu'en fait, si on commence à gratter, enfin, aller voir de quoi les militaires sont responsables, ben, on n'en finit pas. Hein. Mmh. Il y a tout un cas avec un des parcs de. Là, je sais pas le nom de l'armée. Où en fait c'était un centre de torture. Mmh. Et ça commence à être avéré et reconnu. Donc voilà, ça date de crimes depuis les années 70. Donc j'imagine qu'on a. Enfin, il y a déjà ça qui était assumé, mais il y a encore un long cheminement pour que vraiment justice soit faite. Enfin, là, ça a mis 8 années quand même à avoir une version dans laquelle. Ils assument quelques parties, mais c'est pas tout clair. Et surtout, ben, je pense qu'on n'a pas très confiance.
Ouais, puis on a l'impression que ce nouveau président, quelque part, ça a voulu un peu blanchir son image de président de gauche, c'est ça, en gros hein?
Ouais, et surtout que, et là c'est peut-être le lien avec du coup, Claude et son collectif de Stop EDF Mexique, c'est qu'en fait, et jamais l'armée avait eu autant de pouvoir politique, parce que en ce moment, ce même président qui a créé cette commission de la vérité, qui a donné ce rapport et que quelques-unes des têtes sont en train de tomber, ben, c'est lui quand même qui est en train de donner à l'armée la gestion de méga projets. Mmh. Donc notamment le train Maya, qui est un train qui reprend de vieilles voies ferroviaires dans le sud. Du Mexique
ouais.
Mais pas que, il va aussi construire de nouvelles, il va couper la jungle en deux, et aussi il y a tout un des projets de centres commerciaux et tout un projet touristique autour de chaque gare, ce qui va aussi détruire les écosystèmes, et puis notamment le projet de l'isthme de Tehuantepec, que c'est ce que ce défenseur est venu nous en parler le 24 septembre dernier à Saint-Denis. Mmh. Et donc voilà, donc oui, il y a d'un côté, il y a ce rapport, mais de l'autre, en fait, ils vont contrôler des projets qui rapportent énormément d'argent. Déjà, ils contrôlent le narcotrafic, mais aussi, la Guardia Nationale, c'était une police qui justement dépendait du ministère de l'Intérieur. Et que ce nouveau président avait créé, qui s'appelle la Guardia Nacional. Mais maintenant, cette Guardia Nacional, elle va faire partie de l'armée.
Ouais,
C'est-à-dire que l'armée va être dans les rues du Mexique. Et là, elle est notamment présente là où le projet du couloir transatlantique aura lieu.
Transocéanique, ouais, c'est ça.
Transocéanique. Ouais. Du coup, il y a clairement au Mexique. Il y a un lien entre l'armée, les disparitions forcées, le déplacement des gens, parce qu'évidemment, vivre dans la terreur, ben, ça te fait fuir, et puis des méga projets qui arrivent et qui profitent des multinationales, dont des multinationales européennes comme EDF.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que le lien est évident, et y compris cette émission se consacre souvent à ce lien justement entre les projets d'aménagement. donc l'économie autoritaire, le dévastage, enfin le saccage des terres agricoles, des espaces naturels, et derrière toute la machine répressive, quoi. L'armée, alors en France, l'armée est séparée, encore séparée de la police, mais la police se militarise. Donc c'est vrai que ces sujets-là, on les connaît bien. Et bah Claude, justement, le lien qui a été fait dans cette réunion publique à la fin du mois de septembre, là, récemment, c'est vrai que donc il y a Mario. Tout à l'heure, on va écouter un extrait de son intervention. Donc Mario, c'est fait partie de différents collectifs sur place. Donc c'est un autochtone, c'est quelqu'un qui vit là-bas, qui vit avec la culture indigène. Et lui, dans son discours, il fait vraiment, enfin, il a une vision globale un petit peu de sa lutte. Hein. Pour lui, c'est pas, il combat pas, les forces économiques pour son nombril et ses communautés locales. Il comprend bien que c'est un enjeu global et que en face, il y a quand même des grosses machines, des grosses entreprises. Et c'est ça que tu peux expliquer aussi là.
Oui, ben, je peux redire un petit peu dans quel cadre il venait. Donc Mario, en fait, il fait partie donc de cette assemblée qui vient de cette région donc de l'Istme de Tehuantepec, qui s'appelle l'Assemblée donc des peuples indigènes de l'Istme en défense de la terre et du territoire. Et donc là, en septembre, il est passé par chez nous parce qu'en fait, il faisait une petite tournée en Europe pour un petit peu venir rencontrer un certain nombre de collectifs et de luttes en bas à gauche, si on peut dire, dans plusieurs pays, pour justement faire parler de ce méga projet quoi assez pharaonique qu'est le couloir transocéanique. Et donc pour redire un petit peu peut-être de quoi il s'agit, ça serait donc en fait un canal sec donc qui relierait l'océan Atlantique et l'océan Pacifique avec un oléoduc, des lignes de fret et donc bardé bardé de parcs industriels en fait sur tout le long de cette de ce canal. Et donc le lien avec ce qu'avait amené en fait d'autres camarades de l'ISM qu'on avait invités l'année dernière à venir faire une tournée aussi en France est fait, c'est qu'en fait ces camarades-là, ils étaient venus parler plutôt de ces parcs éoliens industriels qui sont imposés notamment par EDF dans l'ISM. Et en fait, ces parcs-là et cette énergie-là, cette électricité, elle peut clairement venir aussi nourrir tous ces parcs industriels. Donc en fait, tout est lié. Donc c'était intéressant ça d'avoir Mario cette année parce que c'était une continuité avec ce que les camarades d'Union Hidalgo, donc cette communauté de l'ISM, c'est là où en fait EDF veut imposer son quatrième parc. Il venait de là-bas et oui,
parce que EDF, il n'y a pas que EDF, j'imagine EDF c'est partie des grosses compagnies étrangères européennes qui investissent là-bas. Il y a Iberola, je crois, le groupe espagnol,
il y a aussi des groupes allemands, Enel, il y a tout, voilà. Gamesa.
Il y a combien de parcs éoliens là-bas?
Voilà, donc dans cette région il y a 29 parcs déjà là-bas, donc c'est environ un peu plus de 2000 éoliennes en fait donc sur cette région, donc c'est assez impressionnant. D'ailleurs quand on va là-bas, c'est vraiment des champs à perte de vue avec une densité énorme.
Maos, quoi, qui font plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Quoi.
Voilà, tout à fait. Donc,
peut-être qu'on va justement écouter Mario. Hein. On va écouter Mario. Donc, il était présent, fin septembre lors de cette réunion publique. Et donc, vous allez voir, il évoque justement toute la dimension globale de ces grands projets. Donc, ça se passe dans l'isthme de Tehuantepec au sud-est du Mexique.
Courte ou longue?
Courte.
Este proyecto es uno de los más importantes y sin embargo uno de los que menos se habla.
Donc en fait il s'agit d'un des plus importants projets, mais celui dont on parle le moins. En fait il s'agit aussi de construire une nouvelle frontière pour le sud-est du Mexique qui va affecter non seulement le Mexique mais aussi des pays du sud frontaliers.
Esta nueva frontera ha sido una aspiración de Estados Unidos.
Donc en fait, cette nouvelle frontière, c'est une envie des États-Unis qui date depuis plus de 100 ans et d'avant le canal du Panama. Et en fait, ce qu'il voudrait, c'est que ce que fait le canal de Panama en 10 jours, ce soit fait en 10 heures. Qu'avec tous ces bateaux et ces trains qui passeraient en déchargeant et en chargeant de la marchandise.
Entonces, littéralmente, van a construir un muro de maquilas en donde quieren detener a los migrantes de Centroamérica.
Il s'agit littéralement d'un mur, d'une frontière qui serait construite avec des maquiladoras, ces entreprises où on paye de la main-d'œuvre vraiment pas cher. C'est ce qui se passe beaucoup à Ciudad Juárez, à la frontière du Nord, où il y a eu beaucoup de féminicides. Mais en tout cas, ils veulent faire la même chose au Sud, et ça serait aussi une manière pour les États-Unis d'empêcher que ces migrants qui viennent de, ben, du coup, d'Amérique centrale, ben, qu'ils poursuivent leur route vers les États-Unis.
Pour l'ambassadeur qui se llama Ken Salazar.
Ken Salazar, qui est du coup l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, qui vient souvent pour observer et porter une vigilance aux travaux en cours ainsi qu'aux flux migratoires. Dans l'isthme de Tehuantepec comme à Chiapas.
Y pues claro que nos preocupan los impactos ambientales, sociales y culturales de este proyecto, ¿no? Y nosotros pues en la experiencia que
tenemos. Donc en fait, on a plusieurs préoccupations sur les impacts sociaux et environnementaux et culturels, mais par contre là ce qui nous préoccupe le plus c'est l'aspect géopolitique. Et parce que comme les zapatistes l'ont nommé en 2007, ce projet, il s'agit l'une de 7 pièces du puzzle global.
Y lo que no pudo hacer el PRI y el PAN durante 80 y tantos años.
Là, ce que le président dont on vous a parlé, le président du Mexique, AMLO, il est en train d'arriver à faire ce que d'autres partis, qui du coup plutôt de droite, n'ont pas réussi à faire pendant 80 années de gouvernement.
Et parce que cette nouvelle frontière des États-Unis lui donnerait l'opportunité.
Donc en fait, cette nouvelle frontière des États-Unis, c'est une opportunité pour pouvoir oublier la guerre économique qu'ils sont en train de mener avec la Chine et du coup se concentrer avec ce qu'ils font, ils ont fait toujours, donc la guerre et le saccage d'autres territoires.
Va aligner les intérêts économiques de tout le nord global.
En fait, c'est un projet qui va profiter ce nord global et développer, mais il va détruire du coup notre territoire complètement, mais il va aussi permettre l'incursion des États-Unis dans d'autres territoires davantage.
Et esto se nota en la région, ¿no? El aumento de la militarización.
Et en fait, ceci est visible dans notre territoire par une hausse de la militarisation et de la violence, mais aussi, tout comme l'armée mexicaine, elle est de plus en plus dans la rue, et il y aura aussi une incursion de l'armée des États-Unis, vu que les narcos ont été déclarés au Texas comme des terroristes. Donc ceci permet d'avoir davantage plus de contrôle.
Y por ejemplo, ahorita se me estaba olvidando algo, el 22 de noviembre del año pasado, Andrés Manuel...
Y j'avais oublié de vous mentionner qu'en fait, le 22 novembre 2021, AMLO, il a fait un décret, il a publié un décret pour déclarer d'intérêt public et de caractère de sécurité nationale les projets prioritaires pour le développement du pays, c'est-à-dire tous les projets qui concernent l'énergie, dans les mines, les éoliennes, toutes ces industries. Et du coup, elles sont placées en tant que des affaires de sécurité nationale, ce qui, par exemple, empêche le collectif de Mario de consulter proprement des dossiers, parce qu'ils sont tous barrés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations auxquelles ils n'ont pas accès à cause de ce classement, de ce décret.
Donc, maintenant, pour ce projet, viene nuevamente una ola de inversiones europeas. Las que tienen ya
en ce moment, pour ce qui concerne ce projet, il y a une, donc c'est une hausse des investissements et c'est aussi une diversification de ces investissements. Ceci nous permet de voir un alignement entre les alliés économiques des États-Unis pour en tirer un bénéfice. Et donc ce qui nous préoccupe vraiment, c'est que si ce projet se consolide, ils vont pouvoir tirer ce bénéfice tout en détruisant la Terre en toute légalité. Et par exemple, une de ces diversifications, c'est le fait que pour le tren Maya, ce n'est pas seulement un train, mais c'est beaucoup de super hôtels qui vont se construire aux alentours, des centres commerciaux.
Et eso es como una de las razones por la que estoy en Europa, hablar del corredor interocéanico, porque no,
malgré le fait que c'est la colonne vertébrale de l'économie mexicaine à venir dans le futur, il y a même le gouvernement ne le mentionne pas, c'est pas quelque chose dont on parle au Mexique. Donc je suis là en Europe pour vous parler de ça, parler de l'agenda des rencontres à venir et aussi pour rencontrer des camarades qui soit se sont réunis là, soit pour rencontrer d'autres d'ici qui pourraient se solidariser avec cette lutte qui nous concerne.
Voilà, donc c'était Mario hein, qui représentait différents collectifs en lutte au Mexique. Donc à Tehuantepec, donc corridor, cette bande de terre de 300 km, hein, en gros, entre. Donc au nord, il y a l'océan Atlantique, au sud, le Pacifique. Et effectivement, donc il a bien expliqué, hein, c'était concurrence directe le couloir de Panama avec le canal de Panama, qui, rappelons-le, a été créé en 1914. Et en fait, en relisant un petit peu les textes sur l'histoire de ce projet, ça date d'il y a carrément 200 ans, presque, hein, 150 ans, 1860-70, les premiers plans, en fait, pour construire une espèce de corridor de marchandises pour, effectivement, couper la route et ne pas contourner le continent américain pour aller dans le Pacifique.
Ouais, il nous avait même raconté que c'était même les Français d'ailleurs qui avaient fait les premières études de cette région pour ce genre de plan. Donc c'est vrai que c'est ce couloir transocéanique, il est dans les cartons en fait des gouvernements du coup pour le coup états-uniens et mexicains depuis très longtemps. Et donc c'est ce qu'il racontait quoi, tout simplement la farce de ce gouvernement dit de gauche qui a réussi à faire ce que tous les gouvernements de droite successifs n'ont jamais réussi à faire pendant plus de 80 ans, lui il disait. Donc c'est toute l'ironie aussi de ce projet, et en fait on en parle très peu, c'est très silencieux en fait, alors que c'est quand même un projet vraiment phare du gouvernement actuel, et avec des intérêts géopolitiques vraiment très forts, puisque c'est ce qu'il nous racontait en fait, c'est tout simplement, c'est donc non seulement tout l'aspect économique évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est en fait ce couloir-là, il va réussir un peu à bloquer tout ce flux migratoire, donc là j'en parle un peu avec leur langage, donc ne disons pas ça, mais donc toutes les personnes migrantes en fait qui remontent d'Amérique centrale pour essayer d'atteindre les États-Unis, et ben leur espoir, c'est de pouvoir faire en fait une nouvelle frontière sud, encore plus militarisée, avec du coup ces personnes qui seraient utilisées comme main d'œuvre à bas coût pour travailler dans toutes ces
toutes ces
industries quoi.
Économie, faux développement, et puis évidemment arriver à écraser les population de pauvres de l'Amérique centrale qui veulent évidemment émigrer quoi. Dans cette histoire, ce qui m'a aussi impressionné, c'est déjà maintenant le lien entre la sécurisation en fait, la militarisation de ces chantiers. Le train Maya, il en est où en fait, le projet du train Maya, donc qui est censé faire le tour en fait de l'extrême est du Mexique, c'est que ce n'est qu'un projet pour l'instant. Ça commence à construire déjà.
Non, ça commence à construire. Ça s'appelle la péninsule de Yucatan.
C'est ça, ouais.
Mais il y a tout un tas, plusieurs tronçons qui sont déjà en construction et d'autres pas encore, avec certains tronçons qui ont pu être stoppés juridiquement, mais en réalité des fois ils commencent les travaux quand même sans respecter les décisions de justice. Et après il y a aussi des tronçons de train qui passent dans la selva quoi, dans la forêt, où il y a pas forcément du monde, ou des fois si, donc c'est assez variable, mais ça avance ce projet là
Ouais, en fait, juste pour dire un mot, normalement, il y a beaucoup de communautés qui se sont opposées, mais aussi dans leurs assemblées, elles étaient infiltrées. Mmh. Et que du coup, enfin, apparemment, il y aurait eu, enfin, c'est une des choses aussi que Mario nous a raconté, c'est que ces assemblées seraient perturbées par des agents du gouvernement infiltrés. Ça, c'est quelque chose qu'au Mexique, ça se passe. Ben, par exemple, à Ayotzinapa, il y en avait un militaire qui était infiltré. C'est vraiment pas
ouais,
pas nouveau.
J'ai l'impression que ça, c'est une, ouais,
c'est une méthode de l'État mexicain, mais vraiment que ça remonte, même dans les années 70, par exemple, dans les manifestations, ils envoyaient des casseurs et tout, enfin, qui étaient en vrai des militaires, que ouais. C'était juste pour semer la terreur.
Non, mais l'histoire de la police, c'est l'histoire de l'infiltration, mais c'est vrai que même en le sachant, c'est difficile de s'en prévaloir parce que c'est évidemment des petits groupes et on peut se faire aussi approcher par des gens qui sont pleins d'énergie mais qui vous trahissent, quoi.
Ouais.
Et donc tout à l'heure on parlait d'EDF parce que donc c'est une des entreprises qui est impliquée dans ces projets énergétiques.
Et peut-être avant de parler d'EDF, peut-être finir sur Mario, on voulait aussi peut-être redire et réitérer ce qu'il est venu annoncer, parce que donc il est venu en Europe pour parler du coup et dénoncer ce couloir transocéanique, mais également pour rencontrer un peu tous ces collectifs un peu partout pour leur annoncer la tenue et l'organisation en fait d'une caravane qui va avoir lieu fin avril, du 25 avril au 5 mai prochain 2023, où en fait cette caravane, le but ça serait d'avoir un peu deux bus, un bus avec plutôt des peuples du Mexique, des collectifs plutôt mexicains, des personnes de là-bas, et un autre qui serait plutôt des personnes venues de l'international, avec des automédias, ce genre de choses, pour parcourir un petit peu, faire un parcours de tous les méga projets destructeurs du sud du Mexique.
Faire un infotour géant dans la région, quoi.
Petit peu, mais surtout aussi rencontrer les différents peuples et communautés qui sont impactés par tous ces projets. Et pour créer, faire du lien, articuler ces différents peuples, et puis voilà, essayer d'organiser la lutte contre tout ça, quoi. Et donc après, avec qui passerait, donc je crois que ça commence sur la côte ouest du Chiapas, ça passerait par la péninsule du coup Yucatán, Veracruz, et ça finirait à San Cristóbal de las Casas au Chiapas, avec le 6 et 7 mai des rencontres internationales.
Intergalactique, presque.
Presque, ouais, voilà. Donc, et en plus, donc, ça serait effectivement en plus dans un caracol zapatiste, Racine Tocanec, le Silesti. Voilà, donc c'était juste pour réitérer cet appel-là.
Quand il est venu, il est resté environ un mois, non, c'est ça, Mario, quand il est venu en Europe. Donc évidemment, lui aussi, l'intérêt, c'est que les Européens aussi se bougent et se déplacent là-bas. Parce que le faire des liens sur place, il le fait tous les jours. Ça se fait régulièrement, mais qu'il y ait un écho international, ça c'est vachement important.
Oui, il y a un vrai intérêt à articuler les luttes ici et là-bas, et donc c'est aussi pour ça qu'on lui a fait rencontrer un certain nombre de collectifs ici.
Lesquels, par exemple,
Et donc le lendemain de cette rencontre dont on a parlé là, du 24 septembre avec le collectif Paris Ayotzinapa, on a pu rencontrer donc cette coordination qui s'appelle la coordination des luttes locales, là en Île-de-France, qui rassemble un certain nombre de collectifs du coup autour de la défense des territoires, contre la bétonisation, contre tout ces choses-là, quoi. Où il y a par exemple Zaclay contre la ligne du métro 18, on a les jardins ouvriers d'Aubervilliers, on a le collectif là du Triangle de Gonesse. Et donc justement, on s'est retrouvés ce dimanche 25 septembre du coup à Gonesse pour rencontrer des membres de cette coordination. Bon, comme on était à Gonesse, il y avait surtout des personnes donc de Gonesse, bien sûr. Et donc ça a été très intéressant, les échanges qui ont eu lieu. Et donc là, c'est dans ces moments-là où voilà, on peut vraiment se rencontrer, se poser des questions, voir comment on s'organise chacune dans sa géographie avec ses particularités, et voilà, et voir comment on peut soutenir, avancer ensemble, articuler.
Et puis le chantier olympique aussi, parce qu'à Paris, on est en train de prendre plein la gueule là.
Exactement. Et ça, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, mais d'ailleurs, même le 24 au soir, on avait invité du coup Saccage 2024.
Exactement, ouais.
Pour faire
on a fait
l'émission un peu
là-dessus il y a pas longtemps.
Ah super, voilà, mais donc pour faire tout simplement le lien avec les luttes locales ici, quoi, et un peu montrer la continuité, faire le lien avec tout ça, et Saccage, ils sont aussi partis du coup.
Donc tu penses que Mario il a fait le plein là, il a été content de son séjour, hein.
Je crois qu'il était très content, et en plus surtout il a vu et rencontré beaucoup d'autres personnes au cours de son parcours. Ensuite il est allé du coup dans le sud de la France, et ensuite, après au Pays Basque, et avant ça il était en Italie, en Allemagne, donc il a eu le temps de rencontrer un certain nombre de personnes et de collectifs, Et voilà.
Ok, donc on suivra ça évidemment sur la page des Amis d'Orwell. On mettra effectivement tous les liens utiles, notamment des cartes pour comprendre, bien comprendre, parce que la radio évidemment c'est compliqué d'être complètement exhaustif sur, quand on parle d'un territoire avec toutes ces nouvelles frontières. Donc on fera ça, on mettra le lien vers vos différents sites évidemment. Donc finissons-en avec EDF, donc notre électricien national. Donc c'est vrai qu'en préparant l'émission, moi j'ai vu que récemment il y aurait eu justement une décision comme quoi l'un de ses projets, donc il a déjà des projets de parc éolien qui fonctionnent, mais l'un de ses projets qui était donc en construction ou qui se serait fait capoter, il y aurait eu une décision. Alors toi tu m'as dit tout à l'heure, non pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça du tout.
Alors pas du tout, je ne sais pas, mais donc voilà, pour rétablir un petit peu l'histoire et remettre en contexte, donc voilà, EDF il a déjà 3 parcs éoliens actifs dans la région de l'isthme de Tehuantepec, et donc là on parle du projet de 4e parc qui voudrait s'imposer donc dans la commune de Unión Hidalgo, sur des terres qui sont communales, qui donc sont normalement à usage collectif, qui ne doivent pas être privatisées, qui ne peuvent pas être vendues, et en fait par un espèce de montage juridique et une espèce de voilà de frouillage, ils sont arrivés à avoir faire des petits contrats avec des petits propriétaires qui se disent petits propriétaires alors que c'est normalement illégal, et voilà, et arriver à monter un petit peu leur projet. Ça fait donc plusieurs années maintenant qu'ils essaient de mener à bien ce projet-là. Donc il y a notamment une assemblée, l'assemblée des comuneros et comuneras de Unión Hidalgo, qui sont en lutte contre ce projet-là, entre autres collectifs, et donc qui mènent une lutte par plusieurs moyens, et donc l'un d'entre eux c'était par la voie juridique, quoi. Et donc il y a eu une des tactiques, c'était de demander par le biais d'une ONG en fait que soit menée à bien une consultation dans les règles de l'art normalement qui sont en lien avec la convention.
Vous connaissez bien en France les faux débats publics.
Oui, mais donc là c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est demander une consultation indigène, et donc qui rentre dans le cadre de conventions internationales, la convention 169 de l'OIT, etc., qui dit qu'il faut avoir consentement, éclairé, libre et préalable, etc. Donc bref, souvent en fait ces parcs éoliens là ils ont été imposés sans que ces consultations n'aient lieu, mais quand elles ont lieu en réalité elles sont faites n'importe comment et même plus loin que donc là ce que j'expliquais c'était qu'ils avaient donc demandé à ce qu'une consultation soit faite, et aujourd'hui en fait ce recours juridique se retourne un petit peu contre eux, parce que en fait ces consultations là c'est leur existence même, en réalité, certains la dénoncent, dans le sens où, en fait, la question, c'est jamais oui ou non. C'est toujours, on va faire ce projet, dans quelles conditions vous voulez qu'elle soit faite, et alors, oui, comment, en fait. Donc, c'est plus, en fait, pour entériner un projet que donner de la gentilité pour pouvoir le refuser. En gros, ils avaient fait ce recours-là et aujourd'hui, le juge dit « Ah, il faut vraiment que cette consultation soit menée à bien parce qu'ils avaient commencé à la mettre en place. » Et en fait, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'ils ont validé le projet très rapidement avec cette consultation en justement demandant à plein de personnes de venir, de lever la main. Alors, on ne connaît pas les dessous, mais ce que nous racontent les personnes sur place, c'est soit ils les payent par plein de moyens différents, ils arrivent à les ramener pour influencer tout ça. Et donc en fait, cette consultation qui avait été menée il y a plusieurs mois de ça, avait été ensuite arrêtée. Et là, ce processus juridique, à la fin, finalement, le juge disait il faut la finir, il faut y aller. Donc en fait, ça se retournait contre eux. Ils allaient finalement, à cause de cette consultation, voir le projet validé, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une autre tactique qui est celle de passer plutôt sur le fond du problème, qui est en fait la question agraire et des terres. Et donc c'est là où il y a eu, il y a tout le combat des comuneros qui essayent en fait de remettre en place et de redonner de la vie en fait à leur assemblée, qui est en fait la façon originelle dont ils s'organisaient pour, avec un commissaire des biens communaux pour gérer les terres collectivement en fait. Et donc en fait ce commissaire-là, il avait été assassiné ou disparu du moins je crois que c'était à la fin des années 60 ou 70. Et donc depuis, en fait toute la pression, le harcèlement, la violence dans cette région, ils n'ont jamais remis quelqu'un en fait. Et donc là aujourd'hui, il s'attache à en fait essayer de remettre un peu de la vie dans cette assemblée, d'avoir de nouveaux comuneros, comuneras. Et ils sont aussi passés par un autre cours juridique qui est de faire reconnaître que ces terres sont communales et qu'on de toute façon, en fait, il n'y a pas besoin de consultation puisque l'EDF n'a pas à mettre les pieds sur ces terres-là de toute façon. Donc il n'y a pas à dire oui ou non, c'est normalement illégal, tout simplement. Ce n'est pas des terres qui peuvent être privatisées. Donc voilà, c'était un peu pour remettre en contexte tout ça, et tu voulais poser une question.
Non, mais c'est ça. Mais donc, quand on lit au Mexique, victoire d'une communauté autochtone sur EDF, voilà, c'est...
Voilà, et donc, en juin dernier, donc... Ce qui s'est passé plus récemment, c'est que AMLO, le président actuel mexicain, avait une volonté de mener à bien une réforme électrique qui irait vers la nationalisation en fait du secteur. Mm-hmm. Et donc avec une volonté d'éjecter un petit peu toutes ces multinationales étrangères qui mettent la main sur toutes ces ressources là. Et donc cette réforme finalement elle n'est pas passée, mais un certain nombre d'institutions la mexicaine ont fait un petit peu pression sur EDF et surtout sur il y a la CNR qui a demandé à la CFE, c'est la Commission fédérale électrique, d'annuler en fait les contrats de transmission d'électricité qui avaient été donnés à EDF. Et donc, en fait, c'est ces contrats-là qui ont été annulés, effectivement.
D'accord.
Et donc, c'est pour ça que ça a été interprété, peut-être ici...
Comme un revers.
Victoire, ça y est, tout est annulé. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque EDF n'a jamais annoncé « on annule tout, on se retire », ce n'est pas le cas, donc ça, c'est une chose. Au contraire, ils continuent le processus juridique, ils continuent d'avancer un petit peu en sous-main, de faire des réunions avec les petits propriétaires dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, la bataille n'est pas du tout terminée, et justement, c'est ce que Mario venait aussi clarifier pendant son passage. Il nous racontait, c'est un peu compliqué comme histoire, parce que c'est d'histoires de contrats et de bien comprendre ce qui se joue. Mais en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que ces entreprises, en tout cas EDF, ils ont aussi des contrats de production d'électricité qui leur ont été donnés. Et là, EDF en a un encore sur 30 ans, c'est ce qu'ils nous expliquaient. Et donc, ce contrat-là, il n'a jamais été annulé.
Bien sûr.
Ils peuvent très bien attendre que la conjoncture politique soit un peu plus favorable à leurs intérêts. Et dans quelques années, avoir à nouveau des contrats de transmission ou pouvoir arriver à faire en sorte que leur projet puisse être mené à bien. Donc, voilà, c'est pas terminé, c'est pas du tout encore une bataille gagnée.
Non, c'est ça, ils ont pas déménagé. Quoi.
Voilà, et quand bien même en plus ce projet-là était annulé, et ben en fait il y en a toujours d'autres. Et c'est pas parce que c'est national que c'est mieux.
C'est un projet parmi déjà les méga centres, les méga parcs qui existent déjà, et j'imagine d'autres projets qui de toute façon aboutiront. Écoutez, on va mettre fin à cette émission qui était un peu perturbée, vous l'avez compris. Est-ce qu'on peut donner des pistes maintenant? Ayotzinapa Paris, est-ce qu'il y a des dates? Est-ce qu'il y a des sites internet qu'on peut citer? Des bouquins, des choses pour qu'on puisse se renseigner en prenant le temps de le faire? Pareil pour Stop EDF Mexique, vous avez quoi? Vous avez un site?
Nous on a une page Facebook où on transmet un petit peu des informations, donc c'est Stop EDF Mexique, très simple.
Mm-hmm. Et c'est la même chose pour le collectif Paris Ayotzinapa, c'est sur la page Facebook, on met pas mal d'articles sur l'actualité mexicaine. Et peut-être juste... je voulais revenir sur certaines choses que Mario avait dit lors de cette rencontre le 24 février, parce que il a quand même fait remarquer que cette lutte n'est pas que celle contre EDF et toutes ces multinationales, mais que c'est aussi une lutte de faire des communautés plus fortes et plus résilientes. Et il y a tout un travail aussi que leur collectif fait.
Reconstruire l'autonomie de leur communauté, c'est ça?
Le pouvoir qu'une communauté a quand elle s'organise. Donc, par exemple, quand il y a eu la pandémie avec le Covid, ils se sont rendus compte qu'il y avait des failles dans le système de santé. Des choses qui revenaient en second plan, parce que d'abord c'est la lutte, alors que la santé c'est primordial, et que à partir de ça ils ont commencé à développer notamment la phytopharmacie avec leurs propres plantes, leur savoir,
Le fait aussi qu'ils travaillent avec des lycéens en faisant de l'agroécologie. Enfin voilà, je pense que c'est important juste de remarquer que à côté de, parce que oui, le Mexique, on en parlait, c'est un pays très violent, beaucoup de choses se concentrent. Je pense que c'est pas propre au pays, mais il y a plein d'intérêts de plein de pays qui se concentrent là. Mais à côté, les gens aussi, ils essaient de construire non seulement un avenir, mais un présent différent où on valorise le savoir millénaire des autochtones, et pas tant le fait d'avoir le dernier modèle d'iPhone. Parce que, en fait, je dis ça parce que j'ai une amie qui est sociologue et qui est allée voir des familles où le tren Maya va passer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très contents que le tren Maya va passer. Il n'y a pas que de la résistance. Parce non, que, sûr, évidemment, quand tu es toujours pauvre, quand tu subis du racisme parce que tu es indigène, tu es autochtone, et que ton rêve, c'est d'aller aux États-Unis et c'est d'avoir une maison comme aux États-Unis et d'avoir... voilà, toutes les choses que ici en Occident on a très facilement, évidemment que tu veux ça et que tu penses que ça c'est le développement et que ça c'est la richesse. Donc eux, ils sont aussi en train de mener un combat à part pour montrer que le monde peut se construire différemment sans devoir le détruire.
C'est ça, et que la résistance c'est aussi construire en même temps et continuer à vivre, et en construisant justement ces solidarités.
C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il avait effectivement beaucoup insisté, quoi, de dire tous ces combats-là, contre des multinationales, on en perd, on en gagne, selon les jours, les temporalités. Mais ce qui continue, ce qui est constant, c'est notre lutte par en bas d'organisation quotidienne et dans tous les domaines pour essayer de
faire avancer. Le lien avec les communautés au Chiapas, c'est évidemment très important, et c'est un relais et une caisse de résonance incroyable. Merci les copines d'être venues ce soir. Et Henrik, on va passer le dernier morceau, et puis donc on vous donne rendez-vous sur sourier.info pour tous les liens que je vais pouvoir vous partager autour de ces sujets. Merci.
Merci à toi.
Salut,
merci.
Bonsoir.
Voy a resistir, porque todo lo que hoy hagamos o dejemos. mano el desconfiado. El cayó, no procuró, se convirtió en el malvado. Yo no soy el creador para llamarte de nuevo a casa, pero seguro que en tu dolor conocerás a tu propia raza. Por mi raza hablará el espíritu. ¿Entiendes lo que digo? Lo habrás entendido cuando no discrimina a tus hijos. El mensaje clave, una proeza desde adelante. La protesta no es desmadre, despertarte de tu trance.
Soy el eco de mi gente.
Soy el eco de
la rabia que se levanta.
La vida que tienes es tuya, busca ya la trascendencia. Que no hay bondad en ningún gobierno, solo creo en la organización real del pueblo. En los que van más allá de lo establecido, en los que buscan libertad porque hay motivos. Todos unidos seguimos luchando, buscando en nosotros el más grande cambio. Con corazón, con cada colaboración, codo, con todo en conexión. Con la conciencia y con intención, la vivencia de la generación, uniendo fuerzas para poder crearlo. Somos uno, vibrando y conectando. Cada camino que cruza fronteras, cada guerrero que deja sus huellas. Protesta, esta canción es de protesta. Vencer el miedo y unirnos es la propuesta. Protesta, alzar la voz en todos lados. Pintar paredes, organizar todos los vecindarios. Protesta, esta poesía es de protesta. Las barricadas y las marchas son respuesta. Protesta, hay otro mundo que es posible. La unión es de la fuerza y nuestro sueño es invencible.
Este es el drama de todos los días, es la guerra fría. Están contra su propio pueblo. Nuestra indiferencia no va a solucionarlo. Hay que manifestarlo. La violencia aquí tiene forma de silencio. Y si no piensas en gritarlo, aquí nadie va a venir a hacerlo en tu nombre. No importa si eres hombre o mujer, el poder se encuentra dentro de tu ser. Dentro de tu ser.
Quieren callarnos, pero ya aprendimos a gritar, a protestar, y solo fue por la necesidad. ¿Cuál pacifismo? Dime tú, ¿cuál no violencia? Aquí la gente se defiende como el mapuche a su tierra. Haz que las calles hablen, que griten, que estallen, que sienta el poderoso que ha empezado ya el combate. Que la miseria que nos tienen sometidos va a ser la pólvora que queme sus castillos.
Unos piden paz, otros buscan guerras. En esta vida cotidiana te envenenan, encadenados a todo tipo de leyes.
En este campo de batalla vamos codo a codo. Somos el contingente interminable de los otros. Y somos invencibles porque descubrimos que no hay yo sino nosotros. Esta comitiva avanza ni un paso atrás. Coloreando va la marcha con tanta diversidad. Es el poder de la palabra que ya no podrán callar. Pues mucha sangre fue ofrendada en busca de esta libertad.
Cuando el barrio está en peligro, todo está permitido. Lo único no aceptado es no luchar por el mi amigo. La principal batalla es la mente del enemigo. Por eso siempre marcharemos por el mismo motivo. La revolución, la escuela del justo y trabajador. La revolución, una idea pura del corazón. No temas de gritar, pelea por todos los motivos. Pues los que mueren con honor nunca tendrán olvido.
La calle